opérateurs culturels en recherche ou comment les acteurs culturels innovent et expérimentent dans les champs qui recoupent ceux du développement durable.
Pierre Paliard, historien d'art. Nouvelle forme de création.
Les artistes ont des positions, vous le voyez, qui sont très différentes. Et nous allons avoir, quasiment au même moment aux États-Unis, des artistes qui vont assumer une position militante, d'une manière très très nette. Par exemple, Helen et Newton Harrison sont certainement les plus connus. Ils enseignent à l'université de San Diego. Et ils ont fait des pratiques qui étaient, par exemple, des pratiques de jardin de survie avec leurs étudiants. Donc, ils bêchaient un acre par étudiant pour subvenir à leurs besoins. Ils ont étudié dans un cycle très long qui s'appelle le Lagoon Cycle, cycle du lagon. Ils ont étudié des crabes du Sri Lanka pour faire des élevages de crabes et ils se sont interrogés sur les endroits où ils pourraient les mettre, quels étaient les endroits pollués, comment pouvait-on faire pour réhabiliter ces lieux. La Salton Sea, qui a été une véritable catastrophe écologique dans le sud de la Californie, a été prise comme champ d'expérience. Le golfe de Californie est interrogé avec force carte, force dessin, force statistique. Et finalement, ils font un immense panneau d'une centaine de mètres de longueur dans lequel ils accumulent les données pour présenter quels sont les risques de pollution du Pacifique. Donc, il y a une sorte de militantisme à travers ces panneaux, à travers ces conférences. Et ils sont deux artistes qui, d'une certaine manière, disent « Attention, nous ne sommes pas des grands créateurs au sens romantique du mot ». Newton se fait appeler « the maker » et Helen se fait appeler « the witness ». Et c'est un couple qui travaille, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de va-et-vient qui, pour eux, métaphoriquement, est l'affirmation que le vrai travail se fait dans le dialogue, que le vrai travail se fait dans le va-et-vient des questions qui sont les questions environnementales posées concrètement dans la société et dans une sorte de dialogue permanent entre deux éléments, mais qui pourrait être élargi à d'autres personnages. Donc voyez comment ces gens-là se trouvent bien dans une sorte d'interrogation qui est non seulement la défense d'un milieu naturel, environnement, mais pose aussi la question d'une nouvelle conception de la création.
Jean-Paul Thibault, artiste intermédiaire, chercheur et enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence. Un jardin d'expérience artistique.
On a resserré un peu sur les questions d'écologie environnementale, sociale et subjective, en se disant, voilà, on va constituer un module au sein même de l'école et à travers les rendez-vous qu'on va se donner, on va essayer d'explorer les notions de connexion, de recyclage, d'interculturalité. Et on va partir sur des choses concrètes. Et on a commencé à imaginer une plateforme nomade d'expérimentation en récupérant d'abord une caravane. Et cette caravane a été transformée, c'était le film que je voulais vous présenter. Cette caravane a été appropriée par les étudiants qui ont conçu cette caravane non pas comme un lieu d'habitation, mais comme un lieu dans lequel il pouvait y avoir de multiples activités, de multiples ateliers, et qui pouvaient déployer autour d'elle un espace de rencontre, un espace de partage.
Madeleine Chiche et Bernard Misrachi, le groupe Dune.
Nous, on aime bien l'idée du jardin, parce que le jardin, c'est un lieu un peu à part dans la ville où le temps change, où le rapport à l'espace change. Et donc, finalement, on se met forcément à réfléchir un peu d'une autre manière, parce qu'on prend un petit peu de distance par rapport au paysage qu'on traverse toute la journée. Et donc, on s'est dit, peut-être ce lieu est un lieu pour faire un jardin d'expérience. C'est-à-dire que sur toutes les questions liées à l'environnement, qui peuvent être prises en compte sur ce lieu-là. Donc tout à l'heure, je parlais de l'énergie, je parlais des matériaux, du recyclage, du réemploi. mais aussi de l'eau, parce que la dernière révélation extraordinaire, c'est que sur ce toit, on peut récupérer par an, en moyenne, et c'est une hypothèse basse, 1 million de litres d'eau. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce million de litres d'eau? Est-ce qu'on dit, bon, ben, il pleut, ben, l'eau, elle s'écoule, et puis voilà? Ou est-ce que ça peut devenir un élément scénographique avec lequel on peut travailler?
Karim Rafi, directeur du festival Slam et Clam à Fès, au Maroc. Des cultures archaïques?
Je trouve ça, déjà, de parler de développement durable, d'écologie, tout ça, c'est super, c'est génial. On n'a jamais parlé de ça avant. Ça veut dire qu'on est passé de combien? On va parler de... Ouais, on est passé néolithique. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'histoire. Donc, néolithique, ça veut dire 10 000 ans, un peu plus. De projection, donc, et de développement matériel. Ça veut dire que l'esprit humain, il se projette. Et à chaque fois, il y a aussi ce rapport au matériel. Ça veut dire à la matière. Donc, on transforme et puis on se projette, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que pendant 10 000 ans, on a projeté aujourd'hui. Dans la même manière que je parle de projection, je parle de réflexion. Donc l'image, elle revient. Au moment où l'image, elle revient, justement, on voit que le tableau est noir. Et peut-être qu'on a très mal compris ces gens qui ont décidé à un moment de rester primitifs. Donc à un moment, on se dit, tiens, ces cultures archaïques, ils ont peut-être, c'est les seuls qui sont aujourd'hui équipés pour dépasser cette crise. Ça veut dire, quelque part, ils ne dépendent pas beaucoup d'argent, ils ne dépendent pas de la technologie, ils ne sont pas pollueurs. Donc, il y a tout ça. Mais en même temps, nous, nous sommes des hommes modernes, et la modernité nous demande ça, en fait. Il faut avancer. Donc, à un moment, on se retourne et on voit que le monde ne va pas avec la même vitesse. Et puis, ceux qui sont allés trop vite, c'est ceux qui ont reçu l'image le plus rapidement possible.
Sébastien Magna, directeur de l'association à l'Unisson, organisateur du festival Air Libre. Développement durable et marketing.
Nous, le marketing, on est un événement gratuit et dès le départ, on s'est positionné aussi avec un discours commercial qui n'est pas le mien de tous les jours, mais on a écrit notre projet en termes commerciaux. On l'a vendu comme tel, on a beaucoup travaillé la communication. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un des seuls festivals ou événements de musique actuelle qui dispose de mécènes et de financements privés importants. Et puis là, cette année, la Fondation EDF qui nous a apporté une dotation importante sur le thème du développement durable. Donc il faut savoir que depuis 2005, nous... on débloque des budgets sur les arts libres qui peuvent être comparables en termes de volume à ce qu'on investit sur l'artistique pour les éco-toilettes, pour le tri sélectif, pour les surplus de papier recyclé. Mais donc avec cette préoccupation, une préoccupation forte donc liée à l'image et liée aussi donc à cette image marketing qui nous ne pose pas problème. Dans la mesure où on arrive à garder du sens à tout ça.
Débat avec la salle. Intervention des Italiens Claudio Borgoni et Davor Siglar, de la direction artistique d'Il Cantinone Arte Teatri, puis du modérateur Jean-Pascal Quiles.
Et une autre histoire que je voulais raconter. Viviamo nella Val d'Orcia.
On vit dans la vallée d'Orcia,
che fino al 700 era completamente coperta di boschi.
Qui était jusqu'au 1700 complètement couvert avec des forêts.
Poi gli alberi sono serviti per costruire le case.
Après, la forêt était coupée.
Tutto questo rende questo luogo, come ho detto, bellissimo.
Tout ça rend ce lieu beau, très intéressant.
Et patrimonio dell'umanità.
Et des patrimoines d'humanité, de monde.
Oui, en fait, on voit aussi au travers de cette intervention, je suis passé par Montepulciano, les limites aussi des, des politiques de, comment dire, de mise en valeur du patrimoine. C'est quand on scanne les publicités, les panneaux publicitaires, etc., tout ce qui est le décor est très réglementé, finalement. Et du coup, ça vient aussi entrechoquer les possibilités d'évolution des structures, parce que vous ne pouvez pas mettre, j'imagine, de panneaux solaires, comme vous les avez dit, mais pas d'éoliennes ou pas de choses comme ça. Et on peut s'interroger, ça aussi, sur les, ça revient à la réflexion qu'on peut avoir sur les villes-musées, les régions-musées, où on vit dans des endroits où le patrimoine devient plus important que l'évolution humaine. Et effectivement, là, on est bien dans la question des limites du développement durable et donc du changement, puisqu'on a parlé du changement, que le développement durable, c'est d'engager une démarche de changement.
Joseph Richard, secrétaire général du réseau international Urgency, culture et agriculture.
Donc les AMAP, c'est tout simplement les PLSPC, hein, les partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs, parce qu'effectivement il y a quand même des petites différences entre les différents pays. Alors si je dis AMAP, on va un petit peu focaliser là-dessus, alors qu'on essaie d'être un petit peu générique. Les PLSPC, donc, ce sont en général un groupe de consommateurs qui se met d'accord avec un producteur agricole. Ici en région, ça marche beaucoup avec les maraîchers, donc avec les légumes, qui achètent la production en entier, à l'avance, et qui se la partagent dans le groupe de consommateurs. Alors, ça va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que on est vraiment dans une notion d'engagement réciproque, c'est-à-dire que de la part des consommateurs, il y a cet engagement d'écoulement de l'intégralité de la récolte. Et de la part du producteur, il y a un engagement à la fourniture de produits de qualité, hein, donc certifiés bio ou pas. Concrètement, comment ça se passe, hein, c'est un rendez-vous toutes les semaines où les consommateurs viennent sur un lieu de distribution chercher leur panier de légumes. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils ne viennent pas dire « Ah bah tiens, je vais prendre un kilo de carottes, je vais prendre quelques tomates, ah bah les betteraves, j'aime pas, j'en prends pas. » Non, non, ils prennent leur panier avec tout ce qu'il y a dedans. Après, s'ils ont envie de s'arranger avec d'autres consommateurs pour échanger les carottes contre les betteraves et tout ça, ça c'est leur problème. Mais le producteur s'engage, on va dire, sur une variété de légumes, d'une entre 10 et 20 variétés de légumes, et il fournit, et les consommateurs viennent et prennent le panier, quels que soient les produits qui sont dedans, et ils payent à l'avance. Voilà. Alors après, les répercussions. Donc moi, je vous parle de quelque chose qui est donc sur le secteur de l'agriculture. Vous êtes sur le secteur culturel. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur le secteur culturel. Quand je suis arrivé sur le secteur de l'agriculture, j'ai été très marqué par. Je pensais arriver dans un autre monde. Et en fait, pas tant que ça. J'étais très marqué par les points communs qu'il peut y avoir, y compris au niveau langage, hein, puisque agriculture, culture, on parle de gros producteurs, on parle de consommateururs, de trouver un marché, de trouver ses consommateurs, etc. Donc il y a plein de points communs. Maintenant, après. Je sais pas trop comment faire le lien. Je vous fais part de ce concept-là qui marche bien, qui est en plein développement, par exemple, ici en France, qu'on est en train de réfléchir comment l'appliquer dans les pays qui sont moins riches ou, on va dire, entre guillemets, moins développés économiquement. En tout cas, ça veut dire qu'ils ont moins de force de consommation. Mais c'est un concept qui demande qu'à être utilisé dans d'autres secteurs de l'économie, quoi.
Tra di me jabuko, jabuko rodice.
Monsieur Mo et Eric Petrotto, CD Indé, Fédération de labels indépendants, redistribution des richesses à travers le cycle de production de la musique.
Cette association est née en 2004 et on l'a commencé à 7 labels, dont un label marseillais. Je le dis parce qu'on est ici, mais à Ilissam. Et de 2004 à aujourd'hui, on est aujourd'hui 115 labels qui sont éclatés sur toute la France. Et on a décidé de mutualiser nos forces pour réfléchir ensemble à comment demain on pouvait presser ensemble, avoir accès aux médias ensemble, donc acheter des encarts ensemble, donc faire des sorties de nos productions de manière plus visible, et comment on peut, en supprimant les intermédiaires, mais parce qu'on n'y avait plus accès, c'est-à-dire qu'on n'était même plus dans un rapport où on nous pressait le citron, on était juste dans un rapport où on ne nous faisait plus exister. On n'avait plus la possibilité de mettre nos productions de petites structures artisanales dans les magasins traditionnels. Donc on a décidé tout de suite en 2004 de se doter d'une plateforme qui s'appelle cd1d.com, qui est un des gros chantiers de cette fédération, et qui est équitable. Donc on reverse 85% des sommes directement aux artistes et aux labels. Le prix qui est pratiqué en moyenne, c'est le prix que les labels choisissent, et généralement ils s'auto-gèrent, et on se rend compte au bout de 4-5 ans qu'il y a 10 000 membres qui sont inscrits sur CD1D, que l'année dernière on a vendu 6 000 disques, que ça a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc 85 000 euros ont été reversés directement aux producteurs. On se rend compte que le fait de mettre en avant que télécharger, c'est découvrir, mais qu'acheter, c'est soutenir, parce que là encore une fois, là où on est quand même dans un modèle un peu différent, c'est que là on n'a pas affaire à des légumes qui viennent de loin et qui seraient effectivement maltraités, moins chers, etc. Là on a affaire à une mutation sans précédent, où en face on a quelque part la même chose à écouter pour zéro. Donc comment on fait prendre conscience aux gens que si demain on va avoir encore toutes ces choses-là à écouter, il faut qu'on puisse rémunérer les auteurs, les créateurs, les producteurs, les labels qui font vivre tout ça, qui mettent en avant et qui vous le font, qui vous le font avoir chez vous, quoi.
Pourquoi tu n'utilises pas les licences libres sur ta plateforme ? Au lieu de passer par le circuit normal, SACEM.
Déjà, en fait, nous, on choisit pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on fédère les labels et on leur met à disposition un outil. Donc, c'est les labels et les artistes qui sont inscrits à la SACEM ou pas. On a des labels et des artistes au sein de CD1D qui sont en CC, en Creative Commons. Par exemple, effectivement, moi, je m'occupe d'un petit label à Saint-Etienne, mais je suis aussi musicien d'un des groupes. Et c'est assez marrant, on a fait ce qu'on appelle un projet commun avec un autre groupe qui, lui, était en Creative Commons. Et on a fait, je sais pas, 60 dates en France et un peu autour de la France. Et lui a touché zéro à chaque fois. À chaque fois, il a touché zéro. Et nous, en fait, on a été payés par effectivement les redevances que les salles sont obligées de payer, que les festivals sont obligés de payer, que les radios sont obligées de payer, que les coiffeurs sont obligés de payer dans des espèces de pots communs. Et moi, franchement, personnellement, si on m'offre une solution autre qui ferait que j'ai l'impression que c'est plus juste, il n'y a pas de souci, je sauterais dessus ou je réfléchirais. Sauf que là, pour l'instant, ça me saoule un peu de donner globalement ce que je pourrais réinvestir ou à mon collègue qui est en Creative Commons et où on lui a payé son album d'après, ou alors moi, pour mon prochain album, qu'on puisse travailler sur faire ça correctement, bah, ça m'ennuie de filer ça à Obispo, clairement, quoi. Donc, c'est un autre débat. Après, le Creative Commons, moi, je trouve ça très honorable. Hein. C'est flou, le Creative Commons. Il y a des groupes massifs dans le monde qui s'y mettent. Je ne vais pas citer que Nine Inch Nails, par exemple, voilà, Trent Reznor. Mais on se demande si c'est une espèce de volonté de faire une licence, enfin, une espèce de société mondiale de gestion des droits, ou enfin c'est flou, c'est pas très clair le Creative Commons pour moi, hein. C'est vraiment personnel, c'est pas CD1D qui parle, mais ça, nous on met pas de barrière, quoi. Vraiment, c'est chaque label gère comme il veut, quoi.
Frédéric Ménard, directeur de Zutik Productions à Dijon. Espace d'émergence et interaction culturelle.
Donc au début, on a créé cette association pour justement développer un projet, je dirais un projet artistique, centré essentiellement sur la diffusion et la création. Et dans ce sens, depuis maintenant une quinzaine d'années, on essaye de constituer à Dijon un espace, je dirais, d'émergence et de création et d'interaction, donc d'interaction cette fois-ci entre les esthétiques, d'interaction entre les disciplines, mais aussi d'interaction entre les cultures. Donc c'est vrai qu'on aime bien parler d'interaction culturelle plutôt que de diversité culturelle. On a essayé de permettre la rencontre entre des artistes d'origine culturelle totalement différente, d'origine géographique totalement différente. Donc par exemple, on est à l'initiative d'un projet qui s'appelle Le Tigre des Platanes et Étienne Choissier, donc une création qui associe un groupe de jazz toulousain ainsi qu'une chanteuse Azmari qui vient d'Éthiopie. À l'initiative également d'un projet qui s'appelle Sabaring, donc qui associe un groupe de jazz parisien à un ensemble de sabars de Saint-Louis du Sénégal, et beaucoup d'autres projets donc, qui ont permis de mettre en relation des artistes qui pratiquent des disciplines artistiques différentes ou d'origine géographique complètement différente. On est toujours sur ces problématiques de participation des habitants. Et donc par rapport à ça, nous on essaye d'avoir une autre approche, c'est-à-dire que justement, comme je vous disais, on est maintenant des voisins, donc on est des voisins d'autres personnes qui ont une culture. On essaye de mener un peu cette action par rapport justement à un principe qui est en train d'émerger un peu, qui se réfère à la déclaration de Fribourg et qui est justement relative aux droits culturels, donc qui découle elle aussi des droits de l'homme. Mais avant de développer un projet, on essaye de leur expliquer pourquoi on est là, qui on est déjà, et de savoir savoir qui ils sont. Et je pense que justement, cette relation, on essaie de la baser sur la confiance. Donc comment nous, nous essayons de nous intégrer par rapport à ce territoire, par rapport à ces personnes qui nous entourent. Et c'est vrai qu'on a constaté que depuis qu'on est là, enfin depuis 3 ans qu'on est dans ce quartier, ben, les relations se tissent doucement et durablement. Et on trouve ça très intéressant, ce qui a permis justement d'investir ces différentes personnes dans des projets singuliers auxquels ces personnes participent, auxquels ces personnes amènent des idées, auxquelles ces personnes trouvent un certain enthousiasme, elles se font plaisir, voilà. On a eu la chance de rencontrer le directeur de l'OPAC, donc l'OPAC à Dijon est le principal bailleur social dans ce quartier, qui nous a proposé de s'installer dans une barre. Et donc là, on s'est installé dans cet immeuble. Donc, on est plus devenu un opérateur culturel qui travaille dans un quartier en essayant de développer des logiques de participation des habitants. Mais on est devenu un opérateur culturel animé par des personnes qui sont devenues les voisins d'autres personnes, quoi. Voilà. Et pour nous, cette chose devenait de plus en plus essentielle et concrète. Hein.
Ayoko Mensa, rédactrice en chef de l'Afriscope, critique du développement durable.
Juste en deux mots, Africulture, donc Afriscope est porté par une association qui s'appelle Africulture, qui a 11 ans aujourd'hui, qui a 2 bureaux, un dans la Drôme, dans un petit village, et un autre en fait à Paris, donc où je suis. Et avant tout, on va dire, le but de cette association, ça a été de travailler à la connaissance, à la valorisation des expressions artistiques africaines. Aujourd'hui, on a un site internet qui est un gros site, qui fait un petit peu référence, qui accueille 25 000 visites par jour. Voilà, on fait une revue, on a plusieurs sites numériques. Et puis, le dernier projet, c'est donc ce magazine gratuit, diffusé à 30 000 exemplaires en Île-de-France, dans 100 points. Donc, quelque part, en circuit court, puisqu'on ne passe pas du tout par le circuit habituel, effectivement, de la distribution, mais on a identifié des lieux clés, que ce soit lieux culturels, bibliothèques, médiathèques, alors on a aussi des mairies, là, des collèges, services pénitentiaires, c'est vraiment des lieux très hétérogènes, qui sont intéressés par le magazine, et donc, voilà, qui le reçoivent et qui ensuite sont point relais. Je dirais que, avant tout, Afriscope est né du constat qu'il y avait un véritable déficit, en fait, de représentation et de visibilité des diasporas africaines et caraïbéennes en France. Alors, bon, aujourd'hui, c'est un débat relativement médiatique. On sait le retard qu'a pris la France. Mais au-delà de ce retard, finalement, nous, ce qui nous a toujours interrogés, c'est de nous dire pourquoi un tel retard ? Pourquoi, alors qu'on observe effectivement vraiment un métissage de la société, alors que dans nos quartiers, on s'aperçoit qu'il y a une véritable créativité de cette diaspora, il se passe des choses, pourquoi toute cette, je dirais, cette richesse-là du tissu social n'arrive pas à transparaître dans les médias, et notamment les grands médias généralistes. Grosso modo, je dirais que... aujourd'hui, il me semble que ce concept-là, effectivement, de développement durable, tente effectivement de relifter le concept de développement. C'est un concept avant tout utilisé par les grandes entreprises pour tenter de responsabiliser et d'humaniser leur politique aujourd'hui et demain. Mais c'est avant tout dans une logique de maintien et de pérennisation, finalement, de leurs propres intérêts. Et je me demande si effectivement, nous, je dirais, à la fois citoyens lambda et acteurs culturels, on prend toute la mesure de ce que cette crise représente, à la fois comme, je dirais, comme symptôme et comme état du système, et du système dans lequel on évolue. Sí.